Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de Travel Afrique.
Et donc Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous rejoindra en cours d'émission. Amine Birouk du côté de Casablanca n'est pas là ce soir, pour des raisons bien sûr liées à son travail bien sûr de journaliste sportif. Eh bien, on le retrouvera la semaine prochaine. Vous le savez, nous revenons bien évidemment sur la finale en Ligue 1 africaine des champions entre Al Ahly et l'Espérance sportive de Tunis. Dans la polémique, le géant égyptien a quand même pris une option sur le sacre en s'imposant 3-1 contre l'Espérance Tunis vendredi dernier à domicile en finale aller. Malgré le recours à l'arbitrage vidéo, les Égyptiens ont ouvert le score sur un pénalty quand même contesté, transformé par Walid Soliman à la 34e. Amr Souli a ensuite doublé la marque à l'heure de jeu, mais Belaïli a relancé le suspense en réduisant le score sur pénalty à la 63e. Finalement, Walid Soliman a ensuite redonné de la marge au Diable Rouge en signant un doublé sur un nouveau pénalty tout aussi litigieux que le premier. Alors Jules, les faits sont faits comme on le dit du côté du Burkina Faso, mais on va revenir sur le match en lui-même. Comment vous l'avez trouvé?
Oui, j'ai trouvé que c'était une finale plutôt très physique, c'était un véritable combat physique entre deux équipes qui se connaissent bien et qui se respectent. Et finalement, le jeu s'est joué pratiquement au milieu de terrain et on avait pu dénombrer beaucoup de joueurs blessés en cours de rencontre. Mais finalement, ce dénouement qui nous vient après la vidéo n'est que la suite logique de ce qui s'est passé en demi-finale et entre l'Espérance de Tunis et Agosto d'Angola, où l'élimination du club angolais aurait été évitée si la vidéo avait été utilisée. Bon, là, l'Espérance est peut-être dans le rôle de l'arroseur arrosé, mais quand on voit les actions sur la vidéo, à ce niveau, on s'en remet à l'arbitre pour l'interprétation. Donc je pense que le match retour sera un peu difficile pour l'Espérance de Tunis, mais tout reste jouable.
Merci bien, Jules. Alors, Élisée, deux pénaltys contestés. Pensez-vous que les Tunisiens ont été brimés par l'arbitre algérien, Mehdi Habib Charef? Élisée, vous êtes là?
Vous avez suivi ce match. Oui, allô?
Allez-y, on vous entend.
Oui, j'ai dit bien évidemment, puisque en suivant cette explication, c'est vrai qu'il y avait tellement de la tension dans cette affiche. On connaît bien sûr ces deux formations et elles se sont affrontées à plusieurs reprises. C'est vrai que l'avantage pour le moment est pour le club Kairos, mais il faut dire qu'à chaque fois quand elles s'affrontent, il y a toujours de l'électricité dans l'air. Une fois encore, on a vu le match très équilibré à un moment donné, mais tout est arrivé sur ce pénalty qui est...
On va retrouver Élisée d'ici là. En attendant, alors Amdine, l'entraîneur d'Al Ahly, Patrice Carteron, a contre-attaqué en accusant aussi l'Espérance sportive de Tunis de ne pas être irréprochable non plus. Le technicien français affirme notamment avoir été victime d'une agression de la part d'un joueur tunisien. Finalement, ça va dans tous les sens.
Tout à fait, vous avez parfaitement raison de le dire. Quand deux équipes maghrébines se rencontrent, c'est comme ça, la tension est toujours vive. Mais il faut dire que ce fut un match quand même plaisant, mais un match également âprement disputé entre deux belles équipes. Mais il y avait la tension et l'enjeu a un peu quand même pris le dessus sur le match. Mais comme je vous l'avais dit la semaine dernière, en Afrique, le maillon faible, c'est l'arbitrage. On l'a vu, malgré l'arbitrage vidéo, le premier pénalty est litigieux. Moi, je dirais même est-ce que c'est inexistant? Le deuxième penalty, on peut discuter de ça, mais pour le premier, il n'y avait pas du tout faute, il n'y avait pas du tout penalty. Mais comme on le dit, qui règne par les armes, périt par les armes, parce que les Tunisiens se sont qualifiés en finale grâce à l'arbitrage. Mais maintenant, je pense qu'on est en sport, il faut savoir repartir du bon pied, et je pense que les Tunisiens le feront parce que rien n'est gagné. Mais moi, je pense très sincèrement, depuis le début de cette compétition, que cette équipe d'Al-Ihya est un peu supérieure à toutes les équipes qui sont dans cette compétition. Mais on va voir, puisque rien n'est gagné. Vendredi, on saura qui va prendre le dernier mot. Mais avec deux buts d'écart, on peut dire que les Égyptiens ont pris une sérieuse option pour gagner cette Coupe d'Afrique des clubs champions.
Alors, Jules, vous l'évoquiez tout à l'heure, la vidéo est là, elle a été utilisée. Vous avez parlé également de l'interprétation, j'allais dire souveraine, qui revient à l'arbitre. Est-ce que, et Amdine aussi faisait un cas tout à l'heure de l'arbitrage comme étant le maillon faible du football africain, finalement, sans vidéo, il y a des soucis. Avec la vidéo, l'interprétation de l'arbitre est remise en cause. Que faut-il faire?
Non, mais la vidéo, tout compte fait, est un progrès. C'est un progrès parce que c'est un élément qui s'ajoute et qui, tout au moins, peut permettre de sanctionner un arbitre, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Je peux quand même relever, et disons que pour retrouver le côté positif de l'arbitrage africain, que celui-ci a énormément et contribué à l'évolution actuelle du football africain, puisque cet arbitrage s'est quand même amélioré globalement dans le temps. On voit maintenant des équipes aller gagner sur des terrains adverses, on voit des équipes remonter des situations même sur des terrains adverses. Et donc ça, quand se passait, mais dans le passé, même quand vous gagnez 5-0 chez vous, vous pouviez encaisser un 6-0 chez l'adversaire avec tout ce que cela peut comporter comme folklore. L'arbitrage africain a progressé, mais en termes de progrès, il faut toujours être vigilant pour maintenir en quelque sorte la qualité de ce progrès, le pérenniser dans le temps.
Merci bien, Jules. Alors, Élisée, je reviens à vous. Alors, Amdine l'évoquait tout à l'heure, comme quoi, qui règne par l'épée périra par l'épée, parlant justement de cette demi-finale retour entre Agosto de l'Angola et l'Espérance Tunis. On se rappelle que les Angolais disaient avoir été brimés par l'arbitrage. Cette fois-ci, c'est eux, les Tunisiens, qui subissent, qui ont profité bien sûr en demi-finale, qui subissent en finale. Alors, vous êtes d'avis qu'avec Amdine, que c'est un retour de l'ascenseur?
Bien évidemment, Yacouba, il faut dire que ce qui s'est passé même contre l'équipe angolaise était plus pire, si je peux m'exprimer ainsi, puisque il y a même eu un but où le gardien, le but espérantiste, n'a même pas été touché, mais bizarrement, l'arbitre a sifflé une faute en défaveur des Angolais, ce qui a fait que ce but n'a pas été validé, sinon le premier joueur Agosto serait en train de disputer devrait déjà jouer la manche aller de cette finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a vu les Tunisiens crier scandale, puisqu'ils sont en train de mettre la pression sur la Confédération africaine de football. Ils menacent même de ne pas jouer ce match. La Fédération tunisienne s'est même mêlée de cette situation. C'est dire que c'est un problème d'État désormais, puisque le gouvernement a demandé rapidement à la Fédération tunisienne de football de trouver une solution. Et rapidement, cette instance s'est réunie pour réclamer beaucoup de sanctions envers non seulement l'arbitre, ce qui a été fait, puisque la presse tunisienne a annoncé déjà que l'officiel algérien a été déjà suspendu. Ils sont allés même loin en demandant à la CAF de suspendre Walid Azaro, l'attaquant marocain, qui lui a causé d'énormes problèmes, j'allais dire, puisqu'il était là sur les deux pénalties que l'arbitre pouvait juger autrement. Mais il faut dire, en football, tout va très vite. C'est vrai qu'il y a eu la VAR, mais ça n'a pas suffi, puisque l'arbitre, avec un peu de temps pour juger ses actions, il a pris sa décision. Dommage que c'est le football et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Aujourd'hui, les Tunisiens qui sont passés devant les Angolais avec l'aide de l'arbitre sont désormais des victimes face à cette sélection, face à cette équipe du National du Caire qui était, en tout cas, selon moi, était plus forte que les Tunisiens de Tunis. Et déjà, le match retour s'annonce électrique, si on peut le dire déjà, puisque vendredi
vendredi prochain, on aura une très grande affiche pour cette finale retour.
Merci bien, Élisée. Vous le disiez tout à l'heure, Al Ahly, très fort, hein, a pris le devant malgré les bruits de l'après-match. Très remonté aussi avec les deux pénaltys douteux sifflés à son encontre. L'Espérance de Tunis a demandé à l'ACA, vous le disiez, d'annuler la sanction de huis clos partiel censé frapper les virages, hein, du stade de Rades lors de la finale retour vendredi prochain. Donc, alors, par ailleurs, hein, les Sang et Or espèrent voir la CAF annuler les cartons jaunes infligés à Shamsedine Daoudi et Franck Combe qui ont entraîné leur suspension pour le match retour. Ils espèrent aussi également que l'attaquant, hein, adverse Walid Azaro, Élisée a évoqué ce sujet-là, sera sanctionné pour son comportement à l'aller. Alors, Amdine, en cas de décision défavorable de l'Espérance sportive de Tunis, aurait menacé de boycotter la rencontre d'après la presse tunisienne. Pensez-vous que cela puisse arriver?
Non. Il faut monter la pression seulement et il ne peut pas boycotter. Pourquoi boycotter une finale? Ils se sont battus durant les matchs de poule. Ils se sont qualifiés sur le terrain, que ce soit au niveau des quarts et des demi-finales. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît, hein, les équipes maghrébines, c'est comme ça. Quand ils jouent, ils sont des rois concernant la tricherie. Il faut monter la pression sur les arbitres, sur les officiels, même sur les responsables de la CAF. Ça, on le voit tout le temps. C'est aux responsables de la CAF de prendre leurs responsabilités, sanctionner les joueurs qui méritent d'être sanctionnés, mais les joueurs qui ne méritent pas d'être sanctionnés, on ne doit pas les sanctionner. C'est ça la vérité, puisque on est en football, on est en sport. Il faut que force reste à la loi. Il y a les lois de jeu, il y a le règlement. Il faut que les équipes acceptent les règles du jeu, parce qu'on ne peut pas quand même changer les règles en cours du jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Le comportement des Tunisiens est inadmissible. Inadmissible. À chaque fois qu'ils concèdent une défaite, à chaque fois, ils font beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes. Ils créent des problèmes pour pouvoir quand même renverser la tendance. C'est pour cela. Mais je peux compter sur les dirigeants de la CAF pour quand même régler ce problème, puisque les Tunisiens ne sont pas plus puissants que les Égyptiens. Si c'était une équipe d'Afrique de l'Ouest, une équipe d'Afrique noire, bon, on pouvait dire que ça pouvait passer. Mais ils ont affaire à une équipe maghrébine comme eux. Et l'Égypte, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Les dirigeants égyptiens sont de très grands dirigeants. Ils sont bien introduits au niveau des instances de la CAF et ils se font respecter. J'espère que pour l'intérêt du football africain, les dirigeants vont prendre les responsabilités et que force restera à la loi, Yacouba.
Alors, Jules, pour le deux grands absents chez l'Espérance, Shamsedine Daoudi et Franck Combe, suspendus. Côté Al Ahly, blessé et remplacé après 23 minutes, hein, à l'aller. Le latéral Ahmed Fatih sera aussi forfait pour la manche retour. Les carottes sont-elles presque cuites pour l'Espérance?
Non, on ne peut pas le dire, parce que là, le scénario du match sera très important entre les deux équipes. Si l'Espérance de Tunis marque un but relativement matinal, même dans les 30 premières minutes, et tout se jouera sur la patience. L'Espérance devra mettre en place un système qui lui permet de pouvoir contenir l'adversaire et de jouer au chat à la souris. Le plus souvent, les Tunisiens sont des spécialistes du genre et marquent un but dans les 30 premières minutes et accélérer vers la fin et avoir le deuxième but qui crée la qualification. Donc ça, c'est possible. À 3 buts en 1, ce n'est pas encore une catastrophe, parce qu'à 2-0, l'Espérance peut passer. Et je crois que pour ces équipes d'Afrique du Nord, qui sont des équipes beaucoup mieux organisées que celles du sud du Sahara, et il y a un effectif où les joueurs se valent relativement et les suspendus seront remplacés.
Alors, Jules, je reste avec vous. Il y a eu un des échauffourées entre supporters tunisiens lors du match retour en demi-finale face au Primero Agosto à Rades. La finale retour s'annonce bien sûr très risquée et la CAF joue déjà la carte de l'apaisement avec une campagne sur les réseaux sociaux avec des affiches comme « Revivez l'esprit du fair play, rivalisez avec le respect, gagnez avec l'honneur ». Faut-il craindre un des débordements pour le match retour à Rades en Tunisie, bien sûr?
Mais bien sûr, c'est pour cela qu'il faut toujours que la prévention soit là. Bon, la CAF actuellement joue, fait de la prévention relativement pacifique et passive, mais il faudrait également que non seulement il y ait la carotte, mais aussi le bâton qui menace, parce que c'est l'autorité de la nouvelle équipe de la CAF qui est jouée ainsi depuis quelque temps. Et donc, il faudrait que la CAF montre que c'est elle qui commande et qu'elle peut prendre des mesures de répression vis-à-vis surtout des pays de grand football en Afrique qui, à un moment donné, peuvent être sanctionnés même au niveau des rencontres internationales qui lui coûteront cher.
Merci bien, Jules. Vous suivez Sporama, suivez au Afrique. L'émission revient tout de suite. On en vient maintenant aux décisions de la CAF sur le début du tour préliminaire de la Coupe de la CAF saison 2018-2019. Ce tour aura lieu avant la finale de l'édition 2018 qui oppose le Raja Casablanca à l'AS Vita Club. L'instance justifie cette décision par le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin-juillet. La CAF annonce également qu'un troisième club ne représentera pas le pays vainqueur de la Coupe CAF au cas où le vainqueur n'a pas validé son billet via les compétitions nationales. Alors, Élisée, il y a une sorte de chamboulement du calendrier habituel des Coupes africaines avec cette CAN repoussée désormais au mois de juin-juillet.
Oui, justement, pour permettre à ces internationaux, ceux-là qui évoluent dans les meilleurs championnats européens, puisque ces championnats prennent souvent fin en mois de mai, c'est vrai qu'il faudrait ça pour histoire de rattraper quelques années plus tard, parce que s'il faut revoir le calendrier en Afrique, il faudra que ça se chamboule quelque part pour que qu'on puisse rattraper quelques années plus tard, je l'ai dit tantôt. Maintenant, il y a eu des décisions qui laissent à désirer, hein, surtout concernant la finale de la Coupe de la CAF, puisque le vainqueur n'aura pas trois représentants. C'est-à-dire que même le vainqueur de la Coupe, si en temps un club béninois avait remporté, ou bien si en temps la Vita Club, voilà, si la Vita Club remportait la Coupe de la CAF et que l'équipe de Nioka qui était qualifiée pour la Coupe, qui était qualifiée pour cette Coupe de la CAF, qui avait remporté la Coupe de la RD Congo, c'est-à-dire que si en temps la Vita Club devait représenter la RD Congo pour cette même Coupe de la CAF, eh bien, Nioka ne va pas représenter le pays. C'est-à-dire que quelque part, la CAF devait revoir cette décision, mais bon. Il faudra ça pour que le football africain puisse avoir un bon niveau désormais, puisque le vainqueur même de la Ligue des Champions, quand il arrive en Coupe du Monde des clubs, vous voyez, seul le tout-puissant Mazembe a fait mieux en allant jusqu'au final, hein, une finale perdue contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Sinon, depuis, il y a eu de problèmes, il y a eu cette manque de régularité. C'est vrai que le Raja de Casablanca l'a fait aussi en temps, mais il faudrait que la CAF revoie quand même sa manière d'organisation, d'organiser les compétitions pour que on a une très bonne compétition africaine des clubs.
Merci bien, Élisée. Alors, il y a Nicolas Pinault qui vient nous faire un coucou. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Et bienvenue, ça fait plaisir, hein.
C'est ça.
Alors, la CAF a aussi réparti les places disponibles entre les différentes associations en se basant sur son classement établi sur les performances des 5 dernières années. 12 pays auront 2 représentants en Ligue africaine et en Coupe CAF. Alors, Amdine, parmi eux, ces 12 pays-là, il y a le Cameroun qui retrouve ses 4 représentants désormais.
Oui, vous avez raison, Yacouba. Vous avez parlé tantôt de chamboulement au niveau de la CAF. Moi, je parlerai de tâtonnement, parce que depuis que les nouveaux dirigeants sont là, on ne fait que changer quand même des règles comme ça. On a commencé à dire que maintenant la Coupe d'Afrique, c'est à 24 clubs. On vient encore de changer, on change tout le temps, sans pourtant, alors qu'il doit y avoir de la planification au niveau des compétitions. On essaie de copier au niveau de l'UEFA alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Regardez ce qui se passe au niveau des compétitions africaines quand il s'agit de jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs sont séparés que par quelques jours. Et on sait qu'en Afrique, pour voir, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi je donne l'exemple que je maîtrise le mieux, le Sénégal qui joue contre le Soudan et qui arrive le premier au Soudan.
que son adversaire, parce que le Sénégal avait les moyens de louer un avion spécial pour aller quand même à Khartoum, alors que les Soudanais avaient pris un vol régulier. Donc tout ça, ces paramètres doivent être maîtrisés. Les dirigeants de la CAF doivent savoir que l'Afrique a créé. Quand il faut copier, c'est vrai, il n'est pas, c'est bon de copier, mais il faut savoir aussi faire avec les réalités du moment. Et c'est pourquoi moi, je fustige vraiment le comportement des responsables de la CAF, parce que ce sont des dirigeants africains, ils savent que l'Afrique a ses réalités et ils doivent faire face à ces réalités pour pouvoir organiser bien, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, parce que ce sont des compétitions africaines, pas des compétitions européennes. Donc ils doivent prendre tout ça en compte, un peu de respect quand même envers les sportifs africains, Yacouba.
Merci.
Sinon,
merci.
Ça va aller dans tous les sens.
Merci bien. Dis non, on vous a très bien compris. Alors vous suivez Escorama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Nous parlons aussi de la Ligue des champions en Europe. Le PSG joue son avenir européen à Naples demain. Alors, Nicolas Pineau, deux semaines après le nul, un miraculeux 2-2 arraché au Parc des Princes, grâce à un exploit d'Angel Di Maria dans le temps additionnel, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus droit à l'erreur.
Oui, et puis c'est un peu aussi le rendez-vous face à l'ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Et on le voit notamment dans le championnat de France, on l'a vu récemment le match contre Lille. On n'a pas les 5-6-0, on a toujours des scores un peu plus serrés. Non, mais sur la Ligue des Champions, pour le moment, le Paris Saint-Germain a déçu, à part bien évidemment le match suspect, hein, évidemment la victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais on l'a vu, le PSG a pioché lors du premier match contre Liverpool. Le PSG a eu beaucoup de difficultés face justement à Naples avec ce match nul de but partout. Et encore une fois, si le Paris Saint-Germain, c'est Luigi Buffon hein, qui disait que le PSG avait besoin de temps pour gagner la Ligue des Champions, mais combien d'années finalement, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup recruté l'année dernière le duo Neymar-Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Il va falloir notamment prouver, il faudrait au moins deux victoires pour rassurer tout le monde. Une victoire contre Liverpool, une victoire contre Naples. C'est facile à dire à la radio, c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain.
Tout à fait. Alors, Élysée, en cas de contre-performance en Italie, Paris, troisième de son groupe avec 4 points derrière Naples et Liverpool, aura quasiment dit adieu à la Ligue des Champions cette saison.
C'est le match de tous les dangers, hein, il faut le dire, puisque Nicolas vient de le dire. Le Paris Saint-Germain n'a pas droit à l'erreur. Et c'est vrai que le club a évité de justesse cette défaite. C'est un match à tout risque, comme on le dit souvent. Ancelotti, qui s'est vu battre par ces mêmes Parisiens avec, au moment où il entraînait le Bayern de Munich, ce qui a fait qu'il a été limogé. Et c'est une revanche, une pure revanche pour le technicien qui devra sortir le grand jeu, soit hein, débarrer la voie aux Parisiens. Ce sera catastrophe, ce sera quelque chose de très grave, hein, surtout pour ce entraîneur allemand, Tuchel, qui a pour l'obligation d'amener cette équipe au tout au moins à demi-finale, c'est-à-dire que les Parisiens doivent jouer le tout pour le tout, histoire de se ramener au moins un point de leur déplacement à San Paolo.
Alors, Jules, en plus des retours du capitaine Thiago Silva et du défenseur Presnel Kimpembe, qui était suspendu en championnat, Tuchel pourra compter sur un nouveau renfort de poids, Gianluigi Buffon notamment, la recrue star italienne qui sera titularisée dans les buts parisiens, de quoi rassurer?
Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été recruté, pour amener de la sérénité dans l'équipe quand l'équipe serait en situation difficile, parce que c'est l'expérience de Buffon qui compte et également son leadership. Donc je crois que on le met également face à ses responsabilités, puisque le match se joue en Italie, il connaît très bien le football italien et pourra être d'un grand conseil sur le terrain. Mais je peux aussi rappeler que, en fait, le véritable problème du PSG, c'est qu'il joue dans un championnat qui n'est pas à son niveau. Il y a quelques années, sans être aussi renforcé que cela, dès les premiers renforts, PSG fournissait un jeu beaucoup plus plein au niveau européen, parce qu'à côté, il y avait Monaco qui avait une grosse équipe et également Lyon, et ne serait-ce que ces deux-là. Mais actuellement, franchement, quand le PSG joue dans le championnat de France, ça fait un peu club méditerranéen. Donc je crois que le vrai problème du PSG se trouve là.
Merci bien. Jules, ça sera en même temps votre mot de fin. Bonsoir. On dira aussi merci à Élisée Nkpatine depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée. Et merci également à Amdine Sidan Loyo ici aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous, Amdine.
Merci Yacouba et à l'autre du conseil pour un autre numéro de ce
format. Merci à Nicolas Pinizon qui nous a rejoint hein, en cours d'émission. Et merci Yacouba pour cette dernière et voilà, on va vous remercier et bonne continuation. Merci bien Nicolas. Michel Joseph a réalisé cette émission. Yacouba Ouédraogo vous l'a présenté. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.